cet après-midi, nous allons prendre un peu le rythme de la retraite spirituelle, ou si vous voulez, le rythme de l'enseignement, un peu de l'école. Mettons-nous à l'école du Seigneur, de sa parole. Le Seigneur, d'ailleurs, a bien dit qu'il fallait que les serviteurs, s'ils étaient fidèles, ne manquent pas de nourrir le peuple au temps convenable. Et nous pensons que ce temps que nous passons à Père Guillot est précisément un temps convenable. Nous allons donc méditer ensemble, étudier, méditer la parole de Dieu, mais avec le Saint-Esprit, naturellement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous lire ce dont j'ai parlé ce matin, ce à quoi j'ai fait allusion. Je disais que un homme de Dieu, qui était un théologien, et pas toujours que les théologiens soient des grands évangéliques, moi j'en ai connu, mais enfin, n'est pas toujours, écrit, en effet, dans un de ses livres qui s'intitule « Études morales et religieuses », avait écrit un passage, notamment, où il fait la distinction entre le disciple et le témoin. Et cela est quelque chose de très particulier. Il n'était pas, comme je vous l'ai dit, bien sûr, de la Pentecôte. En effet, il était professeur de théologie dogmatique et apologétique à l'Université de Genève, et il est mort le 18 mai 1906 à l'âge de 43 ans. Il s'appelait Gaston Frommel. Il y a sa maison encore à Genève avec une plaque sur la porte. Voici donc ce que cet homme qui était, on le sent dans ses écrits, un authentique enfant de Dieu, voici ce qu'il a dit de cette question qui, vous savez, est très controversée chez, hélas, nos frères et sœurs de certains autres mouvements, chez les baptistes, par exemple, les baptistes qu'on appelle non réveillés, ou chez les frères larges, qui, eux, ne veulent pas distinguer le baptême dans le Saint-Esprit de la nouvelle naissance, et ils disent que ça ne fait qu'un. À la nouvelle naissance, selon eux, on reçoit forcément le Saint-Esprit en plénitude. Voici donc ce que dit Gaston Frommel. « Prenons garde ici de ne point nous faire d'illusions, de ne point confondre le témoin avec le disciple, et la connaissance qui crée le témoin avec celle qui constitue le disciple. Sans doute, il faut avoir été disciple pour devenir témoin. Mais tout disciple n'est pas nécessairement un témoin. Le disciple devenu témoin ne cesse jamais d'être disciple. Et le témoin vaut toujours ce que vaut le disciple. Par ce témoignage, c'est-à-dire le témoignage des évangiles, nous apprenons ce que d'autres ont vu et entendu concernant Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas encore rencontré nous-mêmes. Il ne nous a point parlé lui-même. Or, cette rencontre immédiate constitue seule le témoin. En parlant des apôtres, Gaston Frommel écrit encore ceci. Autant ils étaient lâches, autant ils sont hardis et courageux, autant ils fuyaient devant l'opprobre, les risques et les périls du témoignage, autant ils sont fermes. Maintenant, ils sont fermes maintenant. et se réjouissent de souffrir pour le nom de leur maître. Que s'est-il passé? Qu'est-il intervenu qui rende compte de cette transformation? Ce qui est intervenu, ce qui s'est passé, la Pentecôte. Ils n'étaient que disciples, ils sont constitués témoins. Ils le sont par le Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous me servirez de témoin. La voilà donc la condition nécessaire et seule suffisante du témoignage chrétien. Il y a deux connaissances possibles de Jésus-Christ, deux connaissances différentes qui ne se contrarient point et ne s'excluent point, qui doivent se compléter et s'entraider l'une l'autre, mais qui ne sont pas moins de nature et d'ordre distincts. L'une fait de nous des disciples, l'autre, mystérieuse, ineffable, à jamais inexprimable, mais réelle, mais certaine et positive, qui nous est directement donnée par le Saint-Esprit, et cette connaissance, cette seconde connaissance, fait de nous des témoins. En effet, derrière et par-delà le regard de notre corps ou de notre imagination, il y a un autre regard, le regard de l'Esprit. Et ce regard, une fois porté sur son objet, nous met en face à face avec le Christ Jésus. Heure bénie et solennelle, où tous les intermédiaires tombent, où les distances s'effacent, où la présence de Jésus-Christ s'affirme pleine, réelle et bienheureuse, où Jésus-Christ parle, où Jésus-Christ se montre et devient comme visible à l'œil de notre foi, où les doutes s'évanouissent, où les problèmes se résolvent, où se prononcent les engagements décisifs, où se consomment les sacrifices, où se prennent les décisions irrévocables. Heure sainte et bénie, par elle nous sommes devenus les témoins de Jésus-Christ. Et Gaston Fromel ajoute encore ceci, ce qui fait d'un homme le témoin de Jésus-Christ n'est pas seulement, ni même surtout, la révélation subite de son œuvre, la vision glorieuse mais rapide et passagère de sa personne, c'est la communion profonde et continue, c'est la participation vivante à son œuvre et à sa personne, lui en nous et nous en lui. Eh bien, je crois, vous savez, que c'est vraiment un morceau intéressant. Un professeur, donc, de Genève, la grande université de Genève, au début de notre siècle, qui prononçait ces choses. Et cette citation, je l'ai donnée il y a assez peu de temps, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, devant un auditoire de chrétiens appartenant précisément à des mouvements qui ne sont pas ceux de la Pentecôte et qui voulaient savoir ce que nous pensions. Je leur ai dit, mais attention, je n'apporte pas la doctrine du mouvement de Pentecôte, mais la doctrine tout simplement de la Bible. Voilà, c'est intéressant étant donné que cette controverse entre ceux qui ne veulent pas que le baptême du Saint-Esprit soit une expérience que l'on puisse distinguer, même si le baptême du Saint-Esprit intervient, peut intervenir très bien au moment de la conversion, n'est-ce pas, comme chez Corneille par exemple. Mais tout de même, nous avons et nous devons le distinguer de la nouvelle naissance. Voilà. Eh bien maintenant, alors, nous allons prendre le départ dans notre étude sur le mystère du Saint-Esprit et commencer par des généralités, en portant particulièrement attention à l'Esprit de Dieu dans la Bible entière. Nous allons mieux comprendre l'œuvre de Dieu, son grand dessein, son amour et sa sollicitude pour le monde des hommes. Je pense que même nous allons renforcer notre conviction. Allons renforcer, c'est toujours bon de la renforcer, notre conviction que la Bible est la vérité, que la parole de Dieu est la vérité. Cela devient une évidence, cela devient quelque chose de clair, quelque chose qui va de soi. C'est merveilleux. La Bible, le livre de Dieu, définissons-la, comme une longue histoire, entièrement parcourue par un souffle immense. Et ce souffle est l'Esprit Saint. On le nomme souffle parce que ce terme est la traduction littérale du mot hébreu que j'ai déjà mentionné hier soir, le mot ruach. On peut prononcer ruach, enfin moi je prononce ruach. En hébreu, il s'écrit avec trois consonnes, vous savez qu'il n'y a pas de voyelles en hébreu, les voyelles ont été rajoutées plus tard par les massorètes. Les voyelles correspondent dans notre alphabet français à R, W, H. La roue. Et ce terme est largement employé par la Bible dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas pu faire le décompte exactement, mais il est employé de très nombreuses fois. Alors il faut s'habituer à ce terme parce qu'il est vraiment particulier. Il y a certains termes dans les Écritures qui sont particuliers, comme par exemple dans le Nouveau Testament, l'agapé. L'agapé, c'est un terme qui est devenu vraiment biblique, qui appartient à la révélation. Agapé, avec le verbe agapéo, agapé, vous savez, c'est l'amour de l'esprit. Et ici, donc, nous sommes en présence de ce terme avec cette notion du souffle, la roue de Yahvé. La roue de Yahvé qui est traduite dans nos Bibles par l'Esprit de l'Éternel. La roue de Yahvé est le souffle, donc, ou l'Esprit d'Éternel. Elle est la manifestation de Dieu lui-même. La manifestation de Dieu, elle n'est pas une puissance que Dieu enverrait, sans doute le pourrait-il, mais ça ne peut pas se concilier avec ce que Dieu est et ce que Dieu a décidé. Donc, c'est la manifestation de Dieu lui-même, accomplissante partout où il le veut, partout, en tout lieu où il le veut, et avec puissance, les actions nécessaires au déroulement de l'œuvre du salut. Vous savez que depuis la Genèse, et en continuant dans les différents livres qui se succèdent dans la Bible, nous voyons que Dieu a fait une implantation de son dessein de salut. Il a implanté, les choses sont allées progressivement, la révélation, dit-on, est progressive, c'est vrai. Dieu a implanté les actions nécessaires, il s'est servi des hommes. Donc la roua est de Dieu qui vient et qui intervient. On ne peut pas mieux dire, la roua ou le souffle de l'Éternel, c'est Dieu qui vient et qui intervient. Retenez cela, Dieu qui vient et qui intervient. Et sans cette roua, sans ce souffle, les hommes auraient été absolument incapables de participer aux opérations de Dieu. Ils auraient été incapables d'être ses auxiliaires, d'être ouvriers avec Dieu, comme Paul le dit. Ils n'auraient pu ni concevoir le plan de Dieu, ni l'accomplir pour leur part. Et c'est ce qui aujourd'hui est encore manifeste, puisque nous avons toujours dans aujourd'hui le souffle de Dieu, ce n'est plus la roua, puisque nous avons quitté l'hébreu pour le grec, et c'est le pneuma, c'est la même chose, le pneuma, le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, et sans lui, eh bien, vraiment, les hommes sont absolument incapables de comprendre vraiment l'œuvre de Dieu, incapables, ils n'y comprennent rien. Et pour ma propre instruction, j'écoute quelquefois à la radio, quand l'occasion s'en présente, une émission qui a lieu vers 7h20 à peu près le soir, 19h20, il s'appelle le téléphone sonne. Quand il s'agit de l'Église, et de temps en temps il y a une émission comme cela sur l'Église avec des représentants de l'Église catholique, quelquefois des représentants du protestantisme. Eh bien, c'est vraiment affligeant de voir que même les représentants, et pourtant il y en a qui, quelquefois, expriment des choses tout de même qui ont un certain intérêt, une certaine valeur, mais c'est affligeant de voir comme ils sont loin vraiment de la vérité révélée dans les Écritures. Il faut maintenant convenir d'une chose, c'est que l'homme, face à son destin éternel, l'homme tel qu'il est, l'homme de la chute, n'a aucune capacité ni force. Il est vraiment le pauvre en esprit. Il est faible et il est fragile, et nous aimerions consulter quelques textes à ce sujet. C'est important. D'abord, dans le psaume 127. Le psaume 127, versets 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Eh bien, ça vraiment, c'est sous une forme imagée, n'est-ce pas? Mais vraiment, nous sentons la vérité qui est exprimée ici. L'homme ne peut absolument ni concevoir, ni faire l'œuvre de Dieu qui est une œuvre d'amour et de salut. Et nous avons aussi dans Jérémie, ah, d'abord, avant d'aller à Jérémie, on pourrait regarder le psaume 78. Le psaume 78, versets 38 et 39. Toutefois, C'est bien ça, le psaume 78. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Cette fois-ci, le mot « souffle » est employé, vous le sentez bien, dans un autre sens, n'est-ce pas? C'est pas le souffle de Dieu, c'est un souffle de vanité, là. Un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Il s'agit du peuple d'Israël. Et maintenant, dans Jérémie, au chapitre 10, il y a là un verset que l'on connaît en général bien, le chapitre 10, verset 23, « Je le sais, ô Éternel, dit le prophète, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Pourquoi ? Parce qu'il ne le peut pas. Et diriger ses pas, entendons, vers la grande solution, vers l'abondance de la vie, vers la vie véritable. Il ne peut pas diriger, il ne le peut pas. Voilà la situation de l'homme. Nous avons encore d'autres textes, mais je ne vais pas tout citer. Tout cité, toutefois j'ai noté ici Job 14, Job 14, voyons encore ce passage, Job 14, versets 1 et 2. « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée, il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre, et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ?» D'un être souillé. Ben, il a fallu, vous le savez, l'incarnation de celui qui est la parole de Dieu, pour que d'un être souillé, c'est-à-dire, disons, d'une humanité telle que la nôtre, semblable à la nôtre, moins le péché, un homme pur, l'homme véritable, puisse sortir. Il a fallu cette grande œuvre de Dieu, il a fallu ce prodige de Dieu pour cela. Mais vous voyez, là, c'était exprimé, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ? La fragilité de l'homme est quelque chose sur quoi il ne faut pas passer trop vite. La vitalité que nous avons, même cette vitalité que nous avons maintenant en nous, qui est une vitalité, je parle de l'homme non converti, une vitalité physique avec une animation de l'âme, mais laquelle âme n'est pas, elle, animée par l'Esprit de Dieu. Eh bien, cette vitalité, est, quelle qu'elle soit, que ce soit celle donc de l'homme de la chute, ou que ce soit la vitalité, alors à plus forte raison, de l'enfant de Dieu, la vitalité est toujours dépendante de Dieu. Ah, il faut que nous sachions bien cela. Elle a besoin d'être constamment alimentée, renouvelée sans cesse par le pouvoir créateur. Constamment. Alors, appuyons cela par un texte, c'est très beau d'affirmer, mais il faut tout de même prouver par le moyen de l'Écriture. Alors, je lis dans Apocalypse chapitre 4 et verset 11, je lis ceci. C'est une parole qui est due aux êtres vivants et qui rendent gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône et qui vit au ciel des siècles. Verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous voyez, attention, je le disais ce matin, la Bible est concise. Concise, pour nous, c'est quelquefois un écueil, une difficulté. Mais il nous suffit d'être bien prévenus. C'est par ta volonté qu'elles existent. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu qui maintient en vie. Le psaume 104 nous dit au sujet des animaux que si Dieu retirait son souffle, et nous aurons l'occasion de parler de ce souffle qui est mentionné précisément là au psaume 104, si Dieu retirait son souffle, tout rentrerait dans la poussière. Immédiatement, c'est-à-dire tout retournerait à l'état minéral, à l'état minéral. Eh bien, donc c'est par la volonté qu'elles existent. Et cela est encore exprimé ailleurs dans l'hébreu, au début de l'épître aux Hébreux, c'est pas la peine d'y aller, vous connaissez ce passage, chapitre 1, verset 3, il est dit que le Seigneur soutient toute chose par sa parole puissante. Il soutient par sa volonté, par sa parole. Dans le début aussi des Colossiens, Jésus-Christ, là aussi, nous est montré comme étant celui qui soutient tout ce qui a été mis en création. Dieu crée et soutient. Donc, nous avons raison de dire que la vitalité est toujours dépendante de Dieu, qu'elle a besoin constamment d'être alimentée et renouvelée. L'être vivant n'a pas la vie en possession définitive, à tel point que la première épître de Jean, dans son chapitre 5, nous dit ceci, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Donc, l'être vivant n'a pas la vie. Même nous maintenant, voyez-vous, nous maintenant, et nous allons le voir se présenter, voir la chose se présenter dans nos études d'une façon plus proche, eh bien, nous avons reçu la vie, nous croyons que nous avons reçu la vie nouvelle, la vie de résurrection de Jésus-Christ. Bien, mais, attention, il faut que nous ayons Jésus-Christ. Il faut que, en somme, celui qui a le pouvoir de donner la vie, vous savez que Jésus a dit dans Jean chapitre 5, tout comme le Père, il a en lui la source de la vie, il la donne à qui il donne la vie, à qui il veut. Nous avons besoin d'avoir nous-mêmes Jésus-Christ en nous. L'homme n'a de respiration, et ça on le trouve dans l'Ancien Testament, n'a de respiration, d'inspiration, de force et de vitalité physique, psychique ou autre, que dans la mesure où il reconnaît son vide, sa vacuité, son vide en esprit et sa pauvreté. C'est pourquoi, chers amis, la première béatitude est admirable, parce que même si, n'est-ce pas, elle nous montre notre misère, l'Écriture est admirable. Je trouve que l'Écriture est admirable, même quand elle nous dit tu es un pauvre rien, tu es rien du tout, tu es comme une puce, comme disait David, n'est-ce pas. Même si l'Écriture nous montre notre état de faiblesse, n'est-ce pas, eh bien l'Écriture vraiment est admirable, parce que en nous montrant cela, nous savons, n'est-ce pas, que la parole de Dieu va nous sortir, de nous sort de cette difficulté. Donc, l'homme n'a pas de respiration, d'inspiration, de vitalité, que dans la mesure où il reconnaît son vide en esprit et sa pauvreté. Aussi faut-il qu'il aspire à recevoir l'esprit et la vie de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons des hommes aspirer à cela. Il y a toujours, et aujourd'hui dans notre temps, il y a certainement encore Enfin, je parle du monde que des gens que nous ne connaissons pas encore. Il y a certainement encore des hommes qui aspirent, qui soupirent à nous, avec l'esprit de les découvrir et de pouvoir leur apporter le bon message. Sans la roua ou sans la pneuma, dans le Nouveau Testament, l'homme ne peut exister en tant que chrétien. C'est elle, la roua ou la pneuma, qui permet la vie de dépendance de l'homme à Dieu. La grâce de Dieu consiste donc à établir une relation entre Dieu et l'homme par la roua, par le souffle, l'Esprit de Dieu. Alors, nous disons que Dieu a résolu de sauver l'homme. Mais, encore est-il, ça on le voit dans l'Ancien Testament, je parle maintenant surtout de cela, il faut encore que l'homme consente à l'action de Dieu. Et ce consentement le ramène à la victoire de la vie. Et ce consentement, c'est ce que nous appelons la foi. La foi, ce consentement. Un consentement, c'est pas un consentement simplement théorique, n'est-ce pas? C'est un consentement profond. Eh bien, c'est ce consentement qui ramène l'homme à la victoire de la foi. Dans le monde où nous sommes, rien ne se fait, je le disais ce matin, sans énergie et sans puissance, et l'énergie que l'on retire de la matière, aujourd'hui on retire de la matière beaucoup d'énergie, la fission atomique et peut-être bientôt la fusion même atomique permettra de retirer des flots d'énergie et de puissance. Mais cette puissance que l'homme, avec son intelligence, on nous jette cela souvent, n'est-ce pas, à la face, mais vous voyez bien tout de même, dans notre siècle, ce que fait l'homme avec son intelligence et capacité. Ben oui, mais l'énergie qu'il retire de la matière, cette énergie ne sert absolument pas à son salut, elle n'intervient absolument pas, et il n'y a que l'énergie, la puissance de Dieu qui nous est apportée par le souffle de Dieu et qui peut, elle, promouvoir jusque dans les régions de la grâce de Dieu. Dieu ne cesse d'agir pour conduire des générations à la réalité de la vie impérissable. Et pour cela, à la vie impérissable, et pour cela, à la perfection. Ça, c'est le grand but de Dieu. Si la roue de l'Éternel, le souffle de l'Éternel, a suscité de nombreux événements au sein de l'histoire, cependant, c'est au sein de l'histoire, c'est que la roue agit quelquefois indépendamment de l'homme, sur la nature, sur la création. Cependant, c'est au centre profond de l'homme qu'elle agit. Et surtout au centre, c'est ce que Paul appelle l'être intérieur, au centre profond de l'homme, transformant le cœur de l'homme, ses pensées, lui apportant la connaissance, l'intelligence et la sagesse pour concourir à l'œuvre magistrale du salut, lui permettant de comprendre les voies divines, lui permettant aussi de parler à Dieu et de l'aimer avec ardeur. Tout cela, c'est l'œuvre de l'Esprit, du souffle de Dieu. C'est pourquoi, de siècle en siècle, apparaissent certains hommes choisis qui parce qu'ils étaient inspirés, se sont dépassés. Des hommes se sont dépassés. Ce furent particulièrement les patriarches se sont dépassés, Moïse s'est dépassé, Abraham s'est dépassé aussi. Les conquérants des juges, dans les juges, n'est-ce pas, nous voyons des conquérants qui sont mis, poussés à l'action, conduits à l'action par la roue de l'Éternel, ils se dépassent. Nous voyons des rois, aussi comme David surtout, les psalmistes, ceux qui ont rédigé, écrit sous inspiration les psaumes, nous avons les prophètes aussi, les prophètes ils ont eu des vues que jamais homme n'a pu avoir, les apôtres, et même, je dirais, à la suite des apôtres, tous ceux qui sont choisis par Dieu pour exercer un ministère, avec à la base de ce ministère un charisme. Donc la roue de l'Éternel a soufflé sur ces hommes. Et elle souffle toujours. Et il faut qu'elle souffle. Et il faut la laisser souffler. La roue de l'Éternel souffle sur ces hommes, comme parfois aussi sur le peuple lui-même, pour les entraîner dans des réalisations qui sont celles du dessein de Dieu. Dessein que la science et l'amour de Dieu a conçu et qui se poursuit encore aujourd'hui. Voyons ce qu'est le souffle de l'Éternel. Roi, avons-nous dit, désigne, signifie souffle. Il est traduit aussi quelquefois par vent, le vent. Le vent, c'est surtout dans un sens propre, et le souffle essentiellement dans le sens plutôt figuré qui est celui de l'esprit. Et ce terme désigne tantôt donc une réalité physique et matérielle, tantôt l'esprit même du Dieu créateur, inspirateur des prophètes, l'esprit agissant, tantôt aussi, troisièmement, on peut dire, l'esprit de l'homme, l'être intérieur de l'homme. Lui aussi est appelé roi, la roi de l'homme. Il y a la roi de l'homme, le souffle intérieur de l'homme. Nous y viendrons. Le souffle de Yahvé met en mouvement les actions de Dieu. Il est lui-même ce souffle, il est l'action vivifiante qui permettent au peuple d'Israël de respirer, parce que vous savez, il y a beaucoup d'aspects concrets dans l'Ancien Testament, mais ces aspects concrets n'en sont pas moins spirituels, et donc il permet au peuple d'Israël de respirer, c'est-à-dire de vivre. Dans l'Ancien Testament, la respiration, c'est la vie, de respirer et de poursuivre son destin de peuple élu. En dépit de tout ce que nous lisons et qui peut, bien sûr, nous affliger lorsque nous voyons vraiment les abominations que ce peuple a pu commettre et comment il a pu s'éloigner de son Dieu, malgré cela, eh bien, la roue de l'Éternel lui a permis de poursuivre son destin de peuple élu, et ce destin a été poursuivi. La preuve, c'est que le Seigneur Jésus est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le souffle de Yahvé met en mouvement donc les actions de Dieu. Il est l'action vivifiante qui permet au peuple d'Israël donc de poursuivre son destin. La roue de Dieu est Dieu. Ce n'est pas tellement la peine de d'insister sur le fait que l'esprit est une personne divine. On le fait souvent dans les cours, bon, c'est bien, on peut se servir même de l'écriture. L'écriture par elle-même nous montre, le Seigneur Jésus parle lui-même du consolateur, du paraclet, le paraclétos, le consolateur ou l'esprit de vérité, il en parle comme d'une personne, bien sûr, mais il nous suffit de dire que la roue de Dieu est Dieu. Dieu en relation agissante avec le peuple d'Israël. Et l'on rencontre ce mot dès la Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est la roue, le souffle qui se mouvait, le souffle de Dieu était là. Il allait entrer en action sur cette masse informe et vide, il était là. On le trouve en Genèse chapitre 8, verset 1. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Pourtant, nous comprenons un vent tel que nous le connaissons maintenant, un vent qui vient, il souffla, mais ce vent était pourtant la roue de l'Éternel. Ce n'était pas un vent ordinaire, c'était un vent qui, en somme, était produit directement par l'Esprit de l'Éternel. Dans Genèse chapitre 6, verset 3, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Là encore, c'est le terme « roua ». Donc, « ma roua ne restera pas toujours dans l'homme. » Et cela nous amène à certaines réflexions, je ne veux pas m'y arrêter maintenant, mais des réflexions qui peuvent avoir leur utilité concernant ces hommes d'avant le déluge. Le Seigneur l'a dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. » C'est donc que l'esprit était dans l'homme. Alors, jusqu'à quel point peut-on considérer la présence de son esprit dans les hommes de ce moment? Il y a, je vous dis, sujet à réflexion. Il y a, voici maintenant quelques autres emplois, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, verset 5, « Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. » Et dans tout ça, c'est la roue. Le souffle de Dieu. Il faut noter deux choses. Il faut noter que la respiration, c'est la vie, le souffle vital. Par respiration, il y a aussi des termes hébreux, je ne veux pas vous compliquer les choses et vous les citer, il y a le terme neshama, le terme nefesh, qui eux aussi signifient respiration, et surtout âme, nefesh, c'est surtout l'âme. Il y aurait beaucoup de choses à dire concernant l'âme. On pose souvent des questions, mais seulement, vous savez, on ne peut pas répondre à une question sur l'âme, on ne peut pas répondre comme ça rapidement. Il faudrait répondre par une étude assez poussée tout de même. Dans l'âme humaine, il y a avant tout l'animation de la vie. Et il ne faut pas oublier que les animaux vivent aussi de par un souffle. Un souffle qui est en eux, je citais tout à l'heure le psaume 104, tu leur retires le souffle et ils rentrent dans la poussière, les animaux. Et il en serait de l'homme aussi. Et à cet égard, nous pouvons dire que donc le souffle qui tient les animaux, cette forme de vie inférieure à l'homme, qui la maintient dans la vitalité, eh bien, on peut l'appeler l'âme, nefesh, l'âme. On peut l'appeler l'âme. En somme, les animaux, à cet égard, ont une âme. Seulement, cette âme ne sert qu'à l'animation de la vie physique. Au sujet de l'animation de la vie physique, il y a quelque chose d'intéressant, parce que ce que la Bible nous montre rejoint des notions scientifiques. Vous savez, beaucoup de scientifiques sont des gens qui se livrent malheureusement eux-mêmes à l'incrédulité, par orgueil, pour d'autres raisons aussi. Bon, mais il n'empêche que dans la science, il y a des connaissances acquises qui se concilie d'une façon magnifique avec l'enseignement biblique, et notamment là, n'est-ce pas? Là, la science, la vraie science, pas celle des gens qui professent la non-création, c'est-à-dire le... l'apparition de la vie par elle-même, n'est-ce pas, par suite de circonstances heureuses. Non, mais disons que la vraie connaissance scientifique nous montre que la vie physique est sous l'empire d'une animation qui est, elle, immatérielle. Et cette animation immatérielle, c'est bien, correspond bien au souffle de l'Éternel. Donc, il y a deux choses. Il y a le souffle, qui est l'animation de la vie, et puis il y a le souffle qui donne à l'homme, alors, son esprit, l'esprit que Dieu a mis en lui. Vous savez que à la création, voyons-le tout de suite, Dieu a formé un esprit dans l'homme. Nous allons le voir dans Zacharie, le prophète Zacharie, au chapitre 12, verset 1er. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voyez-vous? Donc là, nous avons un retour au temps de la création. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Donc au moment de la création, tel que la Genèse nous la rapporte, eh bien l'Éternel a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Alors ça, c'est ce qui le distingue, évidemment, des animaux. Voilà. Eh bien, je pense que nous pouvons nous arrêter maintenant, parce que ça nous conduirait trop loin cet après-midi. Voilà déjà, en somme, des choses que nous avons pu méditer ensemble, entrevoir ensemble, la roue de l'Éternel, ce grand souffle qui parcourt toute la Bible. La Bible, c'est ça. C'est un ensemble de relations historiques, essentiellement historiques. Même dans le Nouveau Testament, les épîtres sont des choses historiques. Et dans cet ensemble de relations qui ont été faites sous l'inspiration du Saint-Esprit, entièrement, l'inspiration de la Bible est plénière, comme on le dit, elle est plénière, c'est-à-dire que tout est inspiré du commencement à la fin. Eh bien, là, alors, parcourt un grand souffle, et ce souffle, en somme, on pourrait s'exprimer ainsi, c'est l'âme de la Bible, c'est l'esprit de la Bible, vraiment. Et ça nous montre que la Bible, c'est un livre exceptionnel, c'est un livre qu'on ne peut comparer à aucun autre.
Et ce qui est dans la Bible, ça ne se trouve nulle part ailleurs, ça ne peut pas se trouver ailleurs. Le grand souffle qui parcourt d'un bout à l'autre la révélation de Dieu et qui en fait, par conséquent, vraiment la vérité. Ta parole est la vérité. Amen.